Un atoll France, les contes de Jacques Tournebroche, 1921. Le gabe d'Olivier. L'empereur Charlemagne et ses 12 pères, ayant pris le Bourdon à Saint-Denis, firent un pèlerinage à Jérusalem. Ils se prosternèrent devant le tombeau de notre Seigneur et s'assirent devant les 13 chaires de la grande salle où Jésus-Christ et les apôtres s'étaient réunis afin de célébrer le Saint-Sacrifice de la Messe. Puis ils se rendirent à Constantinople, désireux de voir le roi Hugon, qui était renommé pour sa magnificence. Le roi les reçut dans son palais, où, sous une coupole d'or, des oiseaux de rubis, d'un artifice merveilleux, chantaient dans des buissons d'émeraude. Il fit asseoir l'empereur de France et les 12 comtes autour de sa table chargée de cerfs, de sangliers, de grues, d'oies sauvages et de pains roulés dans le poivre. Et il offrit à ses hôtes, dans des cornes de bœuf, les vins de Grèce et d'Asie. Charlemagne et ses compagnons burent tous ces vins en l'honneur du roi et de sa fille Hélène. Après le souper, Hugon les mena dans la chambre qui leur était destinée. Cette chambre était ronde. Une colonne qui s'élevait au milieu en soutenait la voûte. On ne pouvait rien voir de plus beau. Contre les murs, couverts d'or et de pourpre, 12 lits étaient rangés et un 13e se dressait proche de la colonne, plus grand que les autres. Charlemagne s'y coucha et les comtes s'étendirent d'alentour. Le vin qu'ils avaient bu leur chauffait le sang et faisait fumer leur cerveau. Ne pouvant goûter le sommeil, ils se mirent à gaber, selon la coutume des chevaliers de France, et ils firent à l'envi des gageures où se montrait leur grand cœur. Et l'empereur fit le premier gabe. Il dit: qu'on m'amène un cheval et tout armé, le meilleur chevalier du roi Hugon. Je lèverai mon épée et l'abattrai sur lui d'une telle force qu'elle fendra, ô Maubert, selle et cheval, et que la lame ira s'enfoncer d'un pied sous terre. Guillaume d'Orange parla après l'empereur et fit le deuxième gabe. Je prendrai, dit-il, une boule de fer que 60 hommes ont peine à porter, et je la lancerai si rudement contre le mur du palais qu'elle en abattra 60 toises. » Roger de Danemark parla ensuite. « Vous voyez cette fière colonne qui soutient la voûte. Et demain je l'arracherai et la briserai comme un fétu de paille. » Après quoi, Renaud de Montauban s'écria « Pardieu, comme Roger, tandis que tu renverseras la colonne, je prendrai la coupole sur mes épaules et la porterai jusqu'au rivage de la mer. » C'est Gérard de Roussillon qui fit le cinquième gabe. Il se vanta de déraciner seul, en une heure, tous les arbres du jardin royal. Aymer prit la parole après Gérard. « Roger, dit-il, un chapeau merveilleux, fait de la peau d'un beau marin et qui rend invisible. Je le mettrai sur ma tête, et demain, quand le roi Hugon sera à son dîner, je mangerai son poisson, je boirai son vin, je lui passerai le nez, je lui donnerai des soufflets, et ne sachant à qui s'en prendre, il fera mettre en prison et fouetter tous ses serviteurs, et ils nous riront. Moi, dit à son tour Huon de Bordeaux, je suis assez agile pour m'approcher du roi et lui couper la barbe et les sourcils sans qu'il s'en aperçoive. C'est un spectacle que je vous donnerai dès demain. J'aurai pas besoin d'un chapeau de veau marin. » Dolin de Mayence fit aussi son gabe. Il promit de dévorer en une heure toutes les figues, toutes les oranges, tous les citrons des vergers du roi. Puis le duc Nem parla de la sorte. Par ma foi, j'irai dans la salle du festin, je prendrai un nappe et coupe d'or et les lancerai si haut qu'ils ne retrouveront plus que dans la lune. Bernard de Brabant éleva alors sa grande voix. « Ferez mieux, dit-il, écoutez-moi, mes pères. Vous savez que le fleuve qui coule à Constantinople y est large, car il approche de son embouchure après avoir traversé l'Égypte, Babylone et le paradis terrestre. Or, je le détournerai de son lit et le ferai couler sur la grande place. » Gérard de Vienne dit, « qu'on mette en ligne 12 chevaliers, et je les fais tomber ensemble sur le nez, seulement par le vent de mon épée. Et c'est le contrôlant qui fit le deuxième gamme, en la manière que voici. Je prendrai mon corps, je sortirai de la ville et je soufflerai d'une telle haleine que toutes les portes de la cité en perdront leur gonds. Olivier seul n'avait encore rien dit. Il était jeune et courtois, et l'empereur l'aimait tendrement. « Mon fils, lui dit-il, ne voulez-vous point gamber aussi ?»« Volontiers, sire, répondit Olivier. Connaissez-vous Hercules de Grèce ?»« On m'en a fait quelques discours, dit Charlemagne. Oui, c'était une idole des mécréants, à la manière du faux dieu Mahom. » « Non point, sire, dit Olivier. Hercule de Grèce fut chevalier chez les païens et roi de quelques royaumes. Il était homme bon et bien formé de tous ses membres. Et s'étant rendu à la cour d'un empereur qui avait 50 filles pucelles, il les épousa toute la même nuit, si bien que le lendemain matin, elles se trouvèrent toutes femmes bien satisfaites et instruites, car il n'avait fait injure à aucune. Or, s'il vous plaît, sire, je ferai mon gamme à l'exemple d'Hercule de Grèce. Mais regardez-vous-en, mon fils Olivier, s'écria l'empereur, ce serait péché. Je pensais bien que ce roi Hercule était un sarrasin. Sire, reprit Olivier, sachez que je compte faire dans le même temps, avec une seule pucelle, ce que Hercule de Grèce fit avec 50. Et cette pucelle sera la princesse Hélène, fille du roi Hugon. Oh, le bonheur, dit Charlemagne, ce sera agir honnêtement et de façon chrétienne. Mais vous avez eu tort, mon fils, de mettre les 50 pucelles du roi Hercule dans votre affaire, ou quand le diable y serait, je n'en vois qu'une. Sire, répondit doucement Olivier, il n'y en a qu'une à la vérité. Mais elle revivra de moi à telle satisfaction que, si je nombre les témoignages de mon amour, on verra le lendemain matin 50 croix au mur. C'est là mon gabe. Le comte Olivier parlait encore quand la colonne qui soutenait la voûte s'entr'ouvrit. Cette colonne était creuse et disposée de telle sorte qu'un homme pût s'y cacher à l'aise pour voir tout et tout entendre. C'est ce que ne savaient point Charlemagne et les 12 comtes. Aussi furent-ils bien surpris d'en voir sortir le roi de Constantinople. Il était pâle de colère, ses yeux étincelaient. Et il fit d'une voix terrible. « Oh, c'est donc ainsi que vous reconnaissez l'hospitalité que je vous donne, ô discourtois. Voilà une heure que vous m'offensez par vos ventries insolentes. Or, sachez-le, sire et chevalier, si demain vous accomplissez tous vos gammes, vous ferez couper la tête. » Ayant parlé de la sorte, il rentra dans la colonne, dont l'ouverture se referma exactement sur lui. Les 12 pères restèrent quelque temps étonnés et muets. L'empereur Charlemagne rompit le premier le silence. « Mes compagnons, dit-il, il est vrai que nous avons largement gabé. Et peut-être avons-nous dit des choses qu'il aurait mieux valu taire. Nous avons bu trop de vin et avons manqué de sagesse. La plus grande faute en est à moi, qui suis votre empereur et qui vous ai donné le mauvais exemple. J'aviserai demain avec vous au moyen de vous tirer de ce pas dangereux. En attendant, il nous convient de dormir. Je vous souhaite une bonne nuit. Dieu nous garde. » Un moment après, l'empereur et les 12 pères ronflaient sous leur couverture de soie et d'or. Ils se réveillèrent au matin, l'esprit encore tout brouillé et croyant avoir fait un rêve. Mais bientôt, des soldats les vinrent prendre pour les conduire au palais afin d'y accomplir leur gabe devant le roi de Constantinople. « Allons, dit l'empereur, allons et prions Dieu et sa sainte mère. Avec l'aide de Notre-Dame, nous accomplirons facilement nos gammes. » Il marcha le premier avec une majesté surhumaine. Parvenus au palais du roi, Charlemagne, Nesme, Aimer, Huon, Dolin, Guillaume, Ogier, Bernard, Renaud, les deux Gérard et Roland, s'étant mis à genoux, firent, les mains jointes, cette prière à la Sainte Vierge. Madame, qui es au paradis, regardez-nous en cette extrémité. Pour l'amour du royaume d'Hélice, qui est tout vôtre, protégez l'empereur de France et ses douze sphères, et donnez-leur la force d'accomplir tous leurs gabes. Qu'ils y se relevèrent réconfortés, tous brillants de courage et d'audace, car ils savaient que Notre-Dame exaucerait leurs prières. Le roi Hugo, assis sur son trône d'or, leur dit « Eh bien, l'heure est venue d'accomplir vos gabes, et si vous y manquez, je vous ferai couper la tête. Allez, rendez-vous donc tout de suite, accompagné de mes soldats, chacun à l'endroit convenable pour faire ces belles choses dont vous êtes insolemment vantés. » Sur cet ordre, ils se dispersèrent, suivis par de petites troupes d'hommes armés. Les uns allèrent dans la salle où ils avaient passé la nuit, les autres dans les jardins et les vergers. Bernard de Brabant s'enfuit vers le fleuve. Roland gagna les remparts et tous, ils marchèrent dûment. Seuls Olivier et Charlemagne restèrent dans le palais, attendant celui-ci le chevalier qu'il avait juré de pourfendre, l'autre la pucelle qu'il devait épouser. Au bout de très peu de temps, une rumeur terrible comme celle qui annoncera aux hommes la fin du monde gronda jusque dans la salle du palais, fit trembler les oiseaux de rubis sur leurs grappes d'émeraude et secoua le roi Hugo dans son trône d'or. C'était un bruit de murailles écroulées et de flots mugissants que dominait le son déchirant d'un corps. Cependant, des messagers accourus de tous les coins de la ville se prosternaient en tremblant aux pieds du roi, apportant d'étranges nouvelles. « Sire, disait l'un, 60 toises des remparts sont tombés d'un coup. »« Oh, sire, disait l'autre, la colonne qui soutenait votre salle voûtée est rompue, et on a vu la coupole marcher comme une tortue vers la mer. »« Sire, disait un troisième, le fleuve avec ses navires et ses poissons traverse les rues et vient battre les murs de votre palais. » Le roi Hugo, pâle d'épouvante, murmura. Par ma foi, mais ces gens sont des enchanteurs. Eh bien, sire, lui dit Charlemagne en souriant, le chevalier que j'attends tarde à venir. Hugo le manda. Il vint. C'était un chevalier d'une haute taille et bien armé. Le bon empereur le coupa en deux, comme il l'avait dit. Et tandis que ces choses s'accomplissaient, Olivier songeait. L'intervention de la très sainte Vierge est visible en ces merveilles, et je me réjouis des signes manifestes qu'elle donne de son amour pour le royaume de France. L'empereur et ses compagnons n'ont pas imploré en vain Notre-Dame, Mère de Dieu. Hélas, je paierai pour tous les autres et j'aurai la tête coupée, car je ne puis demander à la Vierge Marie qu'elle m'aide à accomplir mon gabe. Ce gabe est d'une telle nature qui serait indiscret d'y vouloir entremettre celle qui est le lys de pureté, la tour d'ivoire, la porte close et le verger saint de haie. Et faute d'un secours céleste, je crois bien de n'en pas faire autant que j'ai dit. Ainsi songeait Olivier quand le roi Hugon l'interpella brusquement. À vous, comte, d'accomplir votre promesse ? Sire, répondit Olivier, j'attends avec grande impatience la princesse, votre fille, car il faut bien que vous me fassiez la précieuse grâce de me la donner. Cela est juste, dit le roi Hugon. Je vais donc vous l'envoyer avec un chapelain pour célébrer le mariage. À l'église, pendant la cérémonie, Olivier songeait. Cette pucelle est gracieuse et belle à souhait, et j'ai trop de désir de l'embrasser pour regretter d'avoir fait ce gabe. Le soir, après souper, la princesse Hélène et le comte Olivier furent conduits par 12 dames et 12 chevaliers dans une chambre où ils furent laissés seuls. Ils y passèrent la nuit et le lendemain, des gardes les amenèrent tous deux devant le roi Hugon. Il était sur son trône, entouré de ses chevaliers. Près de lui se tenaient Charlemagne et les pères. « Eh bien, comte Olivier, » demanda le roi, « le gars est-il tenu ?» Olivier gardait le silence, et déjà le roi Hugo se réjouissait de faire trancher la tête de son gendre. Car de tous les gabes, c'est celui d'Olivier qui l'avait le plus fâché. « Répondez, » s'écria-t-il, « osez-vous dire que le gabe est tenu ?» Alors la princesse Hélène, rougissant et souriant, dit, les yeux baissés, d'une voix faible mais distincte, « Oui ?» Charlemagne et les pères furent bien contents d'entendre la princesse dire ce mot. « Allons, » dit Hugon, « ces Français ont Dieu et le diable pour eux. Il était dit que je ne couperais pas la tête à aucun de ces chevaliers. Approchez, mon gendre. » Et il tendit la main à Olivier qui la baisa. L'empereur Charlemagne embrassa la princesse et lui dit « Hélène, je vous tiens pour ma fille et ma bru. Vous nous accompagnerez en France et vous vivrez à notre cour. » Puis comme il avait les lèvres sur les joues de la princesse, il lui dit à l'oreille « Vous avez parlé comme il fallait en femme de cœur, mais confiez-moi cela en grand secret. Avez-vous dit la vérité ?» Elle répondit « Sire, Olivier est vaillant homme et courtois. Il m'a distrait par tant de gentillesse et de milliardise que je n'ai point songé à compter, ni à pas songer davantage. Je devais donc le tenir pour quitte. » Le roi Hugo fit de grandes réjouissances pour les noces de sa fille. Puis Charlemagne et ses douces mères retournèrent en France, emmenant la princesse Hélène.